de témoignage. Quelqu'un d'autre a écrit, il s'appelle Jim, « Merci pour tous ces messages, car ils m'aident à rester et à demeurer dans la parole de Dieu. Soyez tous bénis, vous qui travaillez pour ça. » Ça m'encourage beaucoup aussi, parce que c'est vraiment le but de la page de la Bible, que les gens aiment la Bible et la lisent. Merci pour cette belle histoire, pour tous les articles édifiants qui sont régulièrement publiés. J'apprécie leur simplicité, leur concision, leur clarté, ainsi que les versets encourageants qui les accompagnent. Merci de faire grandir mon intérêt pour la parole de Dieu, d'étancher ma soif, pour ainsi dire, et de me permettre d'avancer dans ma foi. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Et ça, c'était Lucille qui écrivait ça. Il y a un jeune qui m'a dit un jour que depuis qu'il est connecté à la page Facebook de la Bible, qu'il lit de nouveau la Bible. Parce qu'avant, il l'avait un peu laissé de côté sur sa table de chevet, et il ne la touchait plus tellement. Alors, ça me réjouit, mais ce n'est pas suffisant. J'espère qu'au travers de la page Facebook de la Bible, qu'il puisse aller plus loin et qu'il puisse de nouveau se plonger plus régulièrement dans la page de la Bible, prendre des temps de méditation et pas simplement juste checker leur smartphone et puis de passer en revue les statuts de la page de la Bible. Au niveau de la croissance, donc on a commencé avec un premier fan, c'était moi. Et après, j'ai un peu partagé avec mes amis. Et là, vous voyez la croissance de ces derniers mois, dernières années, comment ça s'est passé. C'est impressionnant, mais en même temps, on touche moins d'1% des francophones qui sont actuellement sur Facebook. Donc, il y a encore bien du travail. Donc, ne vous laissez pas trop impressionner par les chiffres non plus. En parallèle de la page Facebook de la Bible, on a aussi un site internet sur lequel on met des articles de fond. Qui sont un peu plus longs, c'est la-bible.info. Vous pouvez retrouver différents articles par rapport à différents thèmes qu'on publie aussi sur la page de la Bible et avec lesquels on arrive aussi à entrer en relation avec les internautes en leur posant des questions. Sur Facebook, c'est vraiment ce qui est court et ce qui est chargé d'émotions comme ça qui marche le plus. Mais après, pour aller plus loin, il faut d'autres outils comme la page de la Bible, par exemple. Ici, quelques statistiques au niveau des pays d'où viennent les personnes de la page de la Bible. Donc, une dominance au niveau de la France, des pays africains, les États-Unis, il y a aussi pas mal de francophones là-bas. Les Indes, ça m'a assez longtemps interpellé, mais depuis qu'il y a un collègue indien qui m'a dit qu'il y a des régions qui sont francophones, je comprends mieux ce chiffre. La Suisse, on est à 3300 fans actuellement. Les personnes qui suivent. Ce qui est très intéressant avec les médias sociaux, Emmanuel va encore l'expliquer après, c'est chacune de ces personnes, chacune de ces 320 000 personnes est connectée à ses amis. Ils ont 50, 60, 100, 200 amis. Et si on additionne tous ces amis, on arrive au chiffre impressionnant de 46 millions de personnes. Donc, si un fan de la Bible est intéressé par quelque chose que j'ai publié dessus, par un verset de la Bible, et qu'il le publie sur son statut, tous ses amis ont le potentiel de voir. Donc, au travers de ces réseaux sociaux, on peut très très rapidement toucher énormément de monde. Et comment ça fonctionne? Emmanuel va nous l'expliquer maintenant dans sa présentation.
On a décidé de faire une pyramide inversée. Donc, on a commencé par le résultat, puis on finit par l'explication. On va essayer de retrouver. On n'a pas tellement de couleurs aujourd'hui, vous avez vu ça. Il doit manquer du jaune, si j'ai bien compris, dans l'ampoule. Voilà. Je suis un ancien entrepreneur de l'Internet. J'ai lancé une société en 2000 que j'ai vendue en 2010. J'étais basé en Valais et je suis parti pour travailler à plein temps dans l'Internet, mais avec une vocation missionnaire. Tout d'abord pour le site Top Chrétien pendant 20 mois et ensuite pour Campus pour Christ, mais dans sa version pour le monde arabe, qui a un nom de couverture ici, qui s'appelle NEM, mais qui veut à peu près rien dire, sinon que ça nous permet de faire des jolies présentations PowerPoint. Il faut aussi également rester connecté ensemble. Vous voyez mon adresse email, mon compte Twitter, mon compte Facebook. Et puis si vous voulez savoir après moi, About Me, vous pouvez Restez en contact. Donc cette mission touche les pays que vous voyez là, après depuis la Mauritanie à gauche, jusqu'au Oman, les Émirats à droite. Et elle touche des pays qui pour la plupart sont des pays fermés ou alors des pays en guerre. Et c'est très interpellant de voir cette carte et de voir aussi cette carte au regard des réseaux sociaux. Et peut-être que vous vous souvenez du printemps arabe, de ce qui s'est passé maintenant, il y a seulement une année, puisqu'on vient de fêter un événement particulier qui était cet événement-ci. Ce monsieur qui s'appelle Mohamed Bouazizi était vendeur de fruits et de légumes dans une ville du sud de la Tunisie qui s'appelle Sidi Bouzid. Et devant l'interdiction des autorités pour la poursuite de son activité commerciale, en désespoir de cause, il a commis ce sacrifice horrible, il s'est immolé par le feu. Mais cet événement-là a sonné le départ de la révolution arabe. Et comment il a été possible, dans un pays qui était quand même gouverné par un dictateur, hein, Ben Ali, qui interdisait les réunions publiques, si plusieurs personnes manifestaient précédemment, ils n'avaient pas hésité à tirer sur la foule. Enfin, la foule, ils n'étaient justement pas une foule, un peu nombreux, mais ils se permettaient de tirer. Les communications étaient surveillées, nous, on le voyait depuis l'extérieur, lorsqu'on avait des statistiques d'accès sur les sites internet en provenance de Tunisie, nous avions une ville, Tunis, et aucune autre. Ce qui signifie que tout le trafic internet circulait par ce qu'on appelle un serveur proxy, c'est-à-dire un ordinateur qui filtre l'entier du trafic qui entre et qui sort dans le pays. Et ensuite, l'internet est redistribué derrière sur toutes les villes du pays. Mais très clairement, lorsqu'on se connectait à un site tunisien ou lorsqu'un internaute tunisien se connectait à l'un de nos sites, il sortait par le proxy tunisien et il n'avait qu'une adresse, c'est-à-dire Tunis. Mais ce qui était incroyable de constater, c'est qu'à un moment donné, pendant la révolution arabe, nous avons vu ce bouchon sauter. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a vu des villes s'allumer sur la carte de Google Analytics et des villes apparaître avec des connexions qui se faisaient derrière, signifiant que le proxy avait sauté. Si j'avais été Ben Ali, j'aurais fait l'inverse, j'aurais coupé l'internet. Ou en tout cas, j'aurais coupé les réseaux sociaux. Pourquoi ? Le recul d'une année nous permet d'en savoir un peu plus. C'est qu'une étude a permis d'analyser 3 millions de tweets, des entrées de blog, des vidéos postées sur YouTube. Et on a remarqué, on a constaté, on a la quasi-assurance que sans les réseaux sociaux, ce printemps arabe n'aurait pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que c'est tout particulièrement Twitter qui a été utilisé, Facebook ne garantissant pas l'anonymat des personnes. Par contre, Twitter permet de mettre des personnes en réseau, de permettre à des personnes de communiquer les unes avec les autres, tout en garantissant leur anonymat, donc leur sécurité, dans un pays fermé, dans un pays sous dictature. Voilà quelques exemples des tweets qu'on a pu relever dans ce temps de révolution en Tunisie. Quelqu'un ici, qui s'appelle Ben Nila. Donc vous voyez, lorsqu'il y a le signe « at » derrière un mot, c'est qu'il s'agit d'une personne. Et lorsque l'on a le petit dièse, « hashtag » comme on dit en anglais, là, on cite un contexte. Donc, qu'est-ce que vous voyez là dans le premier texte ? Des tirs de feu à l'avenue Habib, Bourguiba, dièse, Sidi Bouzid. Dièse, Sidi Bouzid, c'est le lieu même où Mohamed s'est immolé. Mohamed n'est pas décédé tout de suite, il est décédé quelques mois plus tard à l'hôpital, des suites de ses brûlures. Mais c'est réellement le contexte de discussion autour du sacrifice de Sidi Bouzid qui a catalysé et mis en commun la révolte tunisienne. Donc comprenez que pour
fonctionner avec Twitter, si vous écrivez dans Twitter un mot comme ça, de 160 caractères, sans contexte, en ne le situant pas dans un contexte d'intervention qui serait par exemple ici, Sidibouzi, eh bien vous parlez à personne. Reste que, ici les gens se sont catalysés autour. Pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire se passe au Pakistan, encore un lieu fermé, et un homme s'apprête à se mettre au lit, il est 11h30 du soir. Et au moment où il allait arrêter son ordinateur et fermer ses volets peut-être, il entend un bruit d'hélicoptère. Et comme la ville où il habite est une base militaire, abrite plusieurs bases militaires, beaucoup de militaires habitent dans cette région, lui, il pense à un exercice des militaires. Comme si on habite à Sion, en Valais, on est souvent dérangé par les avions, vous le savez. Donc, il prend son ordinateur, puisqu'il est juste devant, il prend son compte Twitter, et il tweet. Cui, cui, cui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit dièse, hashtag, le nom de sa ville, comme Sidi Bouzid. Et, oh, pourquoi est-ce qu'il nous dérange à 11h30 avec les exercices d'hélicoptère? Un tweet, tout ce qu'il y a de plus local et insignifiant. Pourtant, ce monsieur qui a, à cette œuvre-là, 300 personnes qui le lisent, le lendemain matin, il en a plus de 68 000. Pourquoi? Parce qu'il va à sa fenêtre, il voit l'hélicoptère atterrir sur le toit de la maison de son voisin. Ensuite, arrive un autre hélicoptère qui se pose dans le jardin, un autre s'écrase contre le mur du jardin, et il assiste, c'est probablement le seul témoin oculaire à l'arrestation, au meurtre de Ben Laden, et il aura tweeté toute cette histoire, étape après étape, tout ce qu'il a vu de par sa fenêtre, il l'a tweeté. Et quand les premiers échos de l'arrestation ou du meurtre de Ben Laden ont été sus, on a su que c'était dans cette ville, les journalistes ont recherché, en utilisant Twitter comme un moteur de recherche cette fois-ci, dièse, le nom de cette ville, et ils ont vu qu'un gars avait entendu un hélicoptère. Ils ont lu qu'un gars avait vu un hélicoptère se poser sur le toit d'une maison. Et évidemment, ils ont compris que cet homme avait assisté à l'événement et c'était un témoin oculaire qui nous donnait une version différente de celle de l'armée américaine, évidemment. Donc, à travers ces tweets, vous voyez comment les gens ont pu se mettre en réseau, commencer à communiquer sans crainte, sans difficulté. Et lorsqu'ils sont sortis dans la rue pour s'exprimer et puis pour faire part de leur mécontentement contre le régime de Ben Ali, ils n'étaient plus 25 ou 50, mais ils ont été 1000, 5000 et ensuite beaucoup plus. Et quand on est énormément de gens comme ça dans la rue, c'est plus difficile, en tout cas en Tunisie, de tirer sur la foule. Monsieur Bachar el-Assad, lui, ne fait plus le détail, mais il a compris aussi l'histoire qui s'était passée précédemment en Tunisie. Voilà les originaux de ces tweets. Ici, un tweet de Karim2K qui ne cite pas de contexte, mais cite seulement des personnes. Donc, les tweets se situent toujours dans des contextes de personnes ou dans des contextes d'événements. Le « at » se rattache à une personne, le « dièse » se rattache à un événement. Celui de droite est complètement hors contexte. Pourtant, il a été lu. Ces gens en sont allés jusqu'à partager les logos, c'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient réussi à se mettre en communauté et à communiquer autour de ce qui se passait ont adopté ces deux logos, soit celui de gauche, soit celui de droite. Et ces logos faisaient en fait que, office de réunion, on se plaçait sous ce label-là, et ces logos deviennent assez célèbres aujourd'hui. Donc, on va essayer de comprendre un peu comment l'Internet a évolué. Vous avez compris avec ce petit film qu'on n'était pas dans un effet de mode, puisqu'on est réellement dans un changement fondamental de l'approche de l'Internet. Et à travers le moteur de recherche Google que tout le monde connaît, on va essayer de comprendre comment était peut-être l'Internet jusqu'au moment où les réseaux sociaux sont arrivés. Donc aujourd'hui, vous voyez que Google fait toutes sortes d'activités. On vous dit Google c'est un moteur de recherche, vous êtes libre de le croire, bien sûr, ce n'est encore un, mais il fait énormément de choses autres. Il va référencer des images, va référencer des vidéos, de l'actualité, des cartes, des livres, des blogs, des mises à jour, des discussions. Il indexe toutes sortes de contenus. On appelle ça l'indexation universelle des contenus. Ce n'est plus uniquement que du texte, ce n'est plus un moteur de recherche de texte, mais c'est un moteur de recherche de tous les contenus. Pour pouvoir accéder à ces contenus, notamment vos emails par exemple, ou d'autres contenus, des docs ou toutes sortes d'autres choses, eh bien, vous devez utiliser un login. Par exemple, Gmail. Vous avez votre identifiant Gmail qui vous permet d'accéder à tous ces contenus. Mais Google n'est plus tout seul. Vous voyez tout en haut cette ligne rouge qui devrait être orange, mais et vous voyez qu'elle représente en gros le trafic drainé par Google, combien Google a pour de trafic, et vous voyez qu'il règne en maître ici depuis 2009 jusqu'en 2010. Et puis vous avez une courbe bleue là qui monte dans le trafic mondial. Cette courbe bleue, c'est celle de Facebook. Donc un nouvel acteur arrive et qui rejoint Google en mars 2010 et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la vidéo, a dépassé, a même triplé le trafic que Google faisait. Et cet acteur, c'est Facebook. Alors que fait-il Facebook, ben, vous avez la messagerie, vous avez des photos, des événements, vous avez des vidéos, des pages, des applications, des articles, etc. Alors rappelez-vous de ma slide moins 2, il fait exactement la même chose que Google. Pour pouvoir accéder à Facebook, vous avez également besoin d'un login. Pour accéder aux différents contenus de Google, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un login, mais vous pouvez le faire, et si vous le faites, vous avez quelques petits sucres en plus, des analyses, des statistiques, toutes sortes de choses. Donc, deux acteurs qui drainent énormément de trafic dans le monde, pas partout, mais dans le monde, et qui font la même chose, et qui se disputent quoi ? Ils se disputent des logins, c'est-à-dire des profils. Quand je complète mon profil Google, maintenant avec l'outil Google Plus, qui est également un réseau social, je dis qui je suis, mon nom, mon prénom, mon adresse, ma fonction, si je suis marié, ils vont peut-être même aller vous demander combien vous gagnez, il y a toutes sortes de questions. Et puis, ces informations-là vont être utilisées dans le domaine de la publicité pour pouvoir cibler une publicité sur vous. Google a besoin d'endroits, de lieux, comme votre messagerie, comme votre écran d'ordinateur, comme toutes sortes de choses, pour vous montrer des publicités qui sont généralement placés sur la droite et qu'ils essayent de cibler le plus possible. C'est-à-dire de dire à un annonceur qui vendrait du vin, je veux montrer ça à des amateurs de vin, mais pas à des gens qui sont abstinents. Ou alors, si je vends des vacances, en Turquie, je veux des gens qui aiment la Turquie. Mais Google a plus de peine que Facebook. Pourquoi ? Parce que avec Facebook, à chaque fois que vous cliquez « j'aime », vous dites « j'aime » à un annonceur. Enfin, vous le dites à Facebook, mais Facebook ensuite vend cette information aux annonceurs. Et à mesure que vous vivez avec votre profil, votre compte Facebook, vous précisez qui vous êtes réellement, vous avez donné votre âge, vous vous liez à des amis, vous parlez de vos vacances, vous dites simplement « j'ai été en vacances en Égypte », vous dites « Égypte, là », et il va vous présenter des publicités pour d'autres vacances en Égypte. Vous avez dit une fois « j'aime le ski », vous aurez des publicités pour le ski. Vous dites une fois « je fais du VTT », vous aurez la pub pour le VTT. Facebook surpasse Google en termes de ciblage de publicité parce qu'il connaît mieux les internautes que Google. Deux acteurs qui paraissent complètement différents, mais qui en fait font le même métier et se disputent le gâteau. Donc on va se faire une rapide histoire. Pour moi, les réseaux sociaux, ou l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est la soirée Tupperware. Puisque maintenant, vous êtes au parfum, qu'à travers les réseaux sociaux, vous vendez des choses, et finalement, on utilise des réseaux, on utilise des personnes que l'on essaye de connaître pour pouvoir leur fourguer quelque chose. En l'occurrence, ici, des boîtes pour mettre dans le frigo, dans le congélateur. Mais qui fait ça très bien ? Dell le fait très bien.
Dell a utilisé
Twitter très rapidement pour pouvoir positionner ses produits, donner des nouveautés, donner des nouvelles autour de ses produits en les publiant initialement et prioritairement sur Twitter, et a généré, c'était en 2009, donc il y a déjà 6,5 millions de dollars avec ceci.
Comcast, qui est un opérateur de téléphonie, le fait bien aussi. Ils ont eu l'idée, eux, de faire la communication client. Si vous avez des problèmes de connexion, si vous avez différents problèmes avec votre téléphone mobile et tout, vous pouvez utiliser le réseau Twitter pour vous adresser à Comcast, qui a fait des gains de toutes sortes, en tout cas des économies d'échelle pour répondre à ses clients, et a aidé plus de 150 clients avec ce canal-là. Starbucks Coffee, que vous connaissez peut-être, si vous allez dans les aéroports ou autre, ils le font même très bien. Eux, ils ont eu une autre idée. Ils se sont dit, tiens, on va donner une voix à nos consommateurs. Parce que ce web-là, dont je souhaiterais vous parler, il a pris un nom. On l'a appelé Web 2.0. C'est très trendy, comme on dit. C'est le web qui suit le web. On a même parlé de Web 3, mais le Web 3 a fait long feu. On dirait qu'on est dans le Web 2. Le Web 2, c'est vous qui le faites. Et vous connaissez peut-être le journal Time, en 2003 ou 2004, a fait l'homme de l'année. Vous savez, chaque année, Time publie qui sera la personne de l'année. Et c'est très attendu, c'est au mois de décembre. Et cette année-là, ils ont mis un miroir. Donc, ils ont imprimé un truc. Et quand vous regardez Time, vous voyez votre tête sur... Pour illustrer le Web 2.0, c'est vous qui le faites. La réalité, quelques années après, elle est un peu différente. Ici, Starbucks donne une voix à vous, à ses consommateurs, à ceux qui ont une fois bu du café, mais vous propose de leur proposer des idées de produits. Donc, en quelque sorte, vous vous substituez au laboratoire de recherche de Starbucks. Hein, en disant, moi dans mon pays, on boit le café de telle manière, il est agrémenté de ceci, de cela. Et ils ont reçu 50 000 idées de produits. Et beaucoup de ces idées de produits issues de leur communauté sont devenues des produits qui aujourd'hui sont vendus dans les Starbucks. Donc, intéressons-nous un peu à ce message. Quelque part, au départ, sur Internet, on a toujours un message, quelque chose dont on est émetteur, et qui ensuite va toucher des gens. Donc, avant qu'on ait les réseaux sociaux, un message, c'était comme ça. Donc, une personne dit quelque chose, elle est entendue par trois personnes. Vous connaissez peut-être cette règle des restaurants qui disent « Si vous avez bien mangé dans un restaurant, cinq autres personnes le sauront. » Parce que vous avez dit « Waouh, l'adresse, là, j'ai super bien mangé. » Par contre, si vous avez mal mangé, alors c'est 11 personnes qui le sauront. Et donc, il y a des effets de propagation des messages qui sont connus, et ces personnes vont parler à d'autres personnes. Donc, je connais une information, je suis émetteur d'une information, je parle à 3, qui parle à 3, égale 9 personnes. Maintenant, voyons ça avec l'avènement des réseaux sociaux et cette possibilité d'être connecté les uns aux autres, d'être connecté à des réseaux. Un message part d'un émetteur ou part d'une personne, prend le filtre des réseaux sociaux, vous voyez YouTube, Twitter, Facebook, les sites web tout en haut, pour illustrer ces personnes vont prendre votre message, ou prendre le lien qui amène à ce message, et vont le mettre sur leur mur. Et en moyenne, les personnes actuellement utilisatrices des réseaux sociaux, vous avez en moyenne 200 amis. Ce qui nous ramène au chiffre préféré d'Emmanuel, mais Stéphane, je sais qu'il l'aime beaucoup aussi, c'est que quand la Bible touche 318 000 femmes, donc elle a ces 318 000 personnes sous la cuillère, on multiplie cela par 200, disons c'est un facteur connu par Facebook, et vous touchez 46 millions de personnes. Donc la clé ici qui nous est proposée, la clé pour la page de la Bible, c'est de produire un contenu suffisamment de qualité pour que les gens prennent le risque de partager ce contenu de la Bible sur leur mur.
sachant que sur leur mur, leurs amis chrétiens, mais aussi les amis non chrétiens, verront la position que vous prenez. Vous publiez quelque chose de la Bible. Tout récemment, il y a une semaine, je rencontrais Jim, qui est le directeur du film Jésus. Alors, il était là en Égypte et il nous présentait un nouveau film qu'ils ont sorti. Puis je lui ai parlé de ce projet-là, du projet de la Bible, de cette clé qui représente le courage que devront avoir les chrétiens pour partager le message de nos chrétiens. Et il me dit, pour nous, le film Jésus, qui a été vu des millions et des millions et des millions de fois, traduit dans 1200, je ne sais plus combien de langues, il m'a dit, c'est notre clé aussi. Nous voulons que les chrétiens aient le courage de prendre ce film et de dire à son voisin, je t'offre ce film parce qu'il a changé ma vie et j'espère qu'il changera la tienne aussi. Regarde-le. Et si on arrive à résoudre ça, avoir un contenu suffisamment qualitatif pour que les gens ensuite le partagent sur leur mur, alors les 46 millions sont à portée. Sont à notre portée. Mais nous n'avons pas la clé sinon que de produire d'excellents contenus, mais nous devons inviter les gens à le faire. Jim me disait encore, et il avait une petite vidéo pour l'illustrer, très récemment, c'était dans le mois passé en Irak, les enfants sont livrés à eux-mêmes en raison de la guerre, parfois les parents ne sont plus là, ou font la guerre, et les enfants jouent dans la rue et font n'importe quoi. Faire n'importe quoi, c'est faire un feu, c'est prendre des bouteilles d'essence et alimenter le feu avec des bouteilles d'essence. Vous m'avez compris, et la scène est filmée par un téléphone portable, un des gamins prend feu. Donc l'essence coule sur ses habits, et les habits prennent feu rapidement, et ce qui est terrible, c'est que ça ne s'éteint pas, et les gens sautent dessus, essayent de l'éteindre, et voilà. Scène dramatique. Cet enfant sera ensuite conduit à l'hôpital par son père et il dit à son père « Papa, j'ai rien parce que l'homme qui a une colombe sur l'épaule m'a gardé. » Ils ne comprennent pas, mais ils arrivent à l'hôpital. Et effectivement, lorsque vous avez vu les images et que vous le voyez brûler pendant plusieurs minutes, vous dites qu'il doit être sérieusement atteint, mais il est arrivé à l'hôpital, il n'avait rien. Et toujours dans les campos, jusqu'au moment où le film Jésus est arrivé chez eux. Et peut-être que vous vous souvenez de cette scène où Jésus, tout de suite après son baptême, une colombe se pose sur son épaule. Et quand ils en arrivent là, le fils dit « C'est lui ! C'est lui ! C'est lui que j'ai vu dans le feu ! C'est lui que j'ai vu pendant que je brûlais. » Et cette famille qui est en Irak est aujourd'hui convertie à Jésus. Donc, toutes les personnes que vous voyez là, partage. Vous avez des personnages intéressants à voir ici, j'irai un tout petit peu plus vite après. Mais tout à gauche, vous avez l'émetteur du message. Et Time a dit que nous faisons le web désormais dans le web 2, parce qu'on écrit dans les réseaux sociaux, on écrit dans les blogs, on écrit partout, et nous sommes ceux qui faisons le web, c'est faux. En fait, les émetteurs de messages, ceux qui envoient un message, ceux qui sont là-bas, tout à gauche, représentent que 1% de l'Internet. Donc quand on est des chrétiens qui voulons porter le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu plus loin, et que l'on émet ce message-là, on fait partie des 1% qui créent l'Internet. Et moi je suis juste... c'est incroyable parce que partout où je vais, on me demande d'aider une mission ou autre pour l'Internet, j'ai toujours des gens en face de moi qui ont plein d'idées et qui veulent porter ce message plus loin. Contrairement à d'autres qui ne font que copier. Non, nous, on crée. Donc, on est les chrétiens, particulièrement bien dans cette position, tout à gauche de ce bonhomme, comme émetteur de messages. Donc, regardez sa position. S'il utilise les réseaux sociaux, il va en toucher toute une première population qui se situe tout près des logos, là. Ces gens-là sont très importants. On les appelle les linkers influenceurs. Ce sont des gens qui sont déjà habitués aux réseaux sociaux, qui ont déjà pas mal d'amis dans l'escarcelle. Par exemple, Gisèle R, 1000 amis, par exemple, je dis, hein, ou 1200. Mais vous les repérez, comme ça ils en ont 1000, ils en ont 1500. Parce que si un Guy ou si un Stéphane, ou je ne sais pas lequel, qui a déjà 1000 amis dans Facebook, s'il prend votre message et qu'il le redonne sur son mur, c'est déjà 1200 potentiellement qui vont le lire. Peut-être pas 1200, mais plusieurs centaines, assurément. Et lorsque vous en identifiez une série et que vous leur donnez prioritairement ce message-là, alors, regardez, eux-mêmes redonnent à cette population, qui ensuite va redonner plus loin, et vous touchez énormément de monde. Vous avez donc aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, une possibilité d'aller à la rencontre des gens que vous ne connaissez pas encore, des gens qui ne sont pas au contact du message, de la parole de Dieu, du bon message du royaume de Dieu, à mon sens, comme jamais auparavant. Parce que c'est...
Je peux donner un exemple concret ?
Chaud. Oui. Et je vais passer la parole à Stéphane, tout en vous disant que pour nous, le sacrifice, il a eu lieu aussi. Peut-être que ce n'était pas à Sidi Bouzi, mais c'était à Jérusalem. L'histoire a commencé en l'an 33, et c'est à nous de créer ce buzz. Et on passera à des questions tout à l'heure si vous en avez, mais je vais vous donner. Je m'en connecte. Donc on voulait vous montrer la Bible en live.
Donc après que j'ai fini de parler, la première partie, donc il y a exactement 24 minutes, j'ai publié un verset sur la page de la Bible, Thessaloniciens 5, verset 11. Et actuellement, il y a 336 personnes qui ont cliqué sur le bouton « J'aime ». Donc c'est déjà pas mal en 24 minutes. Il y a 29 commentaires et... Ce verset a été affiché sur le profil de 19 000 personnes en 24 minutes. Donc c'est juste pour montrer un peu à quelle vitesse ça peut aller et pour illustrer ce que Emmanuel vient de dire, cet effet multiplicateur ou quasiment exponentiel pour ça.
Alors quel message c'est ?
Donc c'est en haut à gauche, là voilà. Donc c'est ce que j'ai publié justement il y a 25 minutes. Voilà, donc ça c'était juste un petit exemple comme ça en live de comment ça fonctionne.
Donc déjà 23 partages ici, vous le voyez sur ce petit logo ici. Donc c'est déjà 23 fois 200 en 25 minutes. Et puis ici, généralement quand quelqu'un fait « j'aime ce que je vais faire », voilà. Donc vous voyez, 359, il y en a déjà eu quelques-unes entre le moment où j'ai affiché la page et le moment où j'ai cliqué. Donc le fait de dire « j'aime » va produire maintenant, regardez, si je reviens sur mon mur à moi, avec l'équipe de Sylvain au Québec, il faut que je vienne sur... Ça c'est mon mur d'info, voilà, c'est comme ça, voilà. Ça doit apparaître quelque part.
Tu dois le partager, je pense.
Hein?
Tu dois le partager.
Je dois le partager. Ouais. Le j'aime, il n'apparaît pas.
De moins en moins.
Hein? À droite? Vous savez que les murs ont changé. Bon, le j'aime n'a pas apparu. Par contre, clairement, le partage fera en sorte que sur mon mur, ben, on va le faire. Ce sera plus... Hop, un petit bac.
Pendant ce temps, vous pouvez réfléchir si vous avez des questions. On essaiera d'en débattre.
Donc, on va faire l'exercice partagé. Voilà, je partage le statut. Voilà, je ferme. Je reviens sur mon mur, comme ça. C'était en haut, c'était trop vite.
C'est juste là.
En dessous.
Là,
stop.
À gauche.
Là, c'est. Ouais. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Et des gens peuvent venir maintenant sur mon mur, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ben, ils prennent leur bouton et ils font partager. Ce qui fait que ce message commence à faire son petit chemin, peut faire le tour de la planète, ou le tour de la francophonie. Tout dépend de sa qualité et de sa pertinence. Pour qu'il ait la plus longue vie possible et qu'il touche le maximum de personnes.
Merci. Oui, première question.
À votre avis, quel est encore le potentiel de croissance dans ce domaine-là, de Facebook, etc. Je vous donne juste un exemple. Ma femme s'est mise sur Facebook pour voir les photos de ses filles, etc. Une de mes belles filles a inscrit sur le site d'église qui publie, elle reçoit 10 à 12 mails par jour sur l'un ou l'autre de l'église qui a partagé ci ou ça. Et la semaine passée, elle m'a fait mettre que ces mails qui arrivent par ce compte-là passent directement dans les courriels parce que ça la sature, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas une capacité d'attention illimitée. Il y a un moment où plus il y a de messages, moins chacun des messages reçoit d'attention, et il y a un moment où ça part tout simplement mal.
Ouais. Je pense que les médias sociaux, ils peuvent devenir de plus en plus comme une radio. Une radio, ben on est dans la voiture, on l'allume un moment, puis quand on arrive à destination, ben on l'arrête. Il faut, faut arrêter de vouloir suivre absolument tout ce qui se passe sur Facebook, sur Twitter, tout ça, c'est juste impossible. Puis on ferait que ça, puis même comme ça, ce serait impossible. Donc je pense que ça va de plus en plus dans ce sens-là, que de temps en temps, on se connecte, on regarde ce qui se passe, suivant quand on interagit, on transmet des choses plus loin. Mais sinon, je pense que ça va continuer de grandir. Ouais, c'est un peu ça. Après, la question des emails qui arrivent, ça, c'est une question de réglage. Je pense qu'il manque un peu de formation pour les gens pour savoir qu'on peut juste cliquer sur un bouton sur Facebook pour désactiver tous ces messages qui arrivent. Et comme ça, ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça, on peut pas mal régler aussi sur Facebook de ce qu'on veut, de ce qu'on reçoit ou pas.
En fait, moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt un décentrage auquel on est appelé. Ne pas se dire qu'est-ce que Facebook a comme impact sur moi, sur ma vie, mais quel est l'impact que je peux avoir avec Facebook vers la vie des autres. Pour ma part, c'était mon choix parce que je ne suis pas venu pour me faire plaisir sur Facebook. Je me disais, mais quel mode de plus c'était il y a 5 ans. Et il y a eu un événement qui s'est produit en Valais, en fait... un ami à moi qui s'appelle Marcel Morel m'appelle, il me dit j'aimerais que tu fasses mon site internet de campagne, je vais me présenter à la mairie, à la présidence de Sion. J'ai dit Marcel, t'es sympa mais t'es mal barré, t'es libéral alors que le Valais appartient aux catholiques, hein, au PDC, et puis en plus t'es protestant, alors là t'es encore plus mal barré parce qu'en Valais je vous dis, les protestants on regarde encore s'ils ont les pieds fourchus. Et il s'est présenté, et plutôt que de faire tout de suite un site internet, on a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux, parce qu'on savait que les gens qui changeraient d'avis, qui quitteraient le PDC, qui feraient une infidélité au PDC pour voter pour Marcel Maurer, seraient des jeunes, parce qu'il était directeur d'une école d'ingénieurs, seraient des gens plutôt à tendance écologique verte, bien qu'il soit libéral, il est très impliqué dans les énergies renouvelables, et on a utilisé le réseau social pour impacter ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a choisi des cibles en avance. On a dit on veut toucher des jeunes, on veut toucher une certaine population. Et c'est la cible qui a déterminé l'outil. Vous comprenez? D'abord la cible, puis après l'outil. Alors on a utilisé d'abord le réseau social, et c'est seulement à la fin de campagne, un mois avant la fin de campagne, qu'on a mis en ligne le site internet, parce que la presse, tout le monde nous demandait plus de renseignements. Et c'était avec Facebook il y a plus de 4 ans. Et il a été élu avec 400 voix d'avance. Et on sait maintenant que les réseaux sociaux ont joué un rôle fondamental. Et là, je me suis dit, mais si on arrive à faire voter des jeunes pour un candidat qu'ils ne connaissent pas encore, mais on pourra leur donner un autre message un jour. Par là même, si on a des gouvernements sont tombés à cause des réseaux sociaux, disons, avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont permis aux gens de se mettre en communauté, leur a permis de communiquer. Et Dieu sait si dans la mission où je travaille, c'est pertinent, parce qu'il n'existe pas énormément de vecteurs de communication qui soient sûrs, en particulier pour les équipes qui sont sur place. Si elles utilisent Facebook, elles sont en danger. Si elles utilisent Twitter, elles ne sont pas en danger. Donc, ils se forment aujourd'hui, et on les forme pour ça, à utiliser Twitter pour pouvoir aller à la rencontre des gens dans leur pays. On a des outils qui nous permettent de rencontrer énormément de monde et de partager le message que l'on a partagé. Mais il faut le faire intelligemment et je pense qu'il faut maîtriser les outils. Il ne faut pas que les outils nous maîtrisent. Que ce soit en termes de temps ou en termes de technique, il faut apprendre à les utiliser. Il faut regarder comment ça marche. Il faut acheter Facebook pour les nuls et puis se dire comment je vais l'utiliser. En ça, je vais vous donner une petite clé. Sur mon propre univers Facebook, je vais cataloguer les gens qui sont mes amis. Donc, Facebook appelle ça des amis, mais on sait bien que tous ne sont pas vos amis. Il y en a même, moi j'accepte même des gens que je n'ai jamais croisés. Mais ils viendront peut-être, puis un jour je les connaîtrai. Mais dans l'univers Facebook, je ne leur donne pas les mêmes droits. Et ça, vous pouvez le faire également dans les réglages. C'est-à-dire quand la personne entre dans votre cercle de Facebook, vous pouvez lui dire, c'est un ami proche, c'est de la famille. Ou alors, celui-là, je le connais à l'église, celui-là, c'est mon voisin. Cela fait partie du groupe des voisins. Tel autre va faire partie, je ne sais pas, de la société de gym, du basket, de ce que vous voulez. Et à chacun, vous allez, au moment où vous allez publier un contenu, vous allez décider, ça je montre à cela, ça je ne montre pas à cela. Ce qui fait que vous n'allez pas donner du steak à des petits-enfants. Parce que le risque de Facebook, c'est que vous avez Amen, Alléluia, gloire à Dieu et des choses sur toutes vos publications. Et les gens qui vous connaissent à peine, mais qui vous imaginent comme chrétien, ils disent, mais il est illuminé ce gars. Mais chez moi, les non-chrétiens ne voient pas ça. Par contre, mon voisin où j'habite, il est kabyle. Et ce gars, il a été juste super. Quand on s'est installé en France, le premier qui est venu avec un couscous sonner à la maison, c'était lui. Vous êtes nos nouveaux voisins, voilà un couscous. J'ai commencé à parler avec lui, puis petit à petit, j'ai commencé à lui à parler plus et plus et plus. J'ai trouvé le film Jésus dans sa langue natale, le Chaoui, qui est une langue mineure parlée en Algérie. Ça l'a énormément touché d'entendre ce film dans sa langue natale. Et puis il posait des questions et des questions et des questions. Puis alors à un moment donné, comme des questions, et puis j'ai le moyen de le voir régulièrement, alors je l'ai pris plus près. C'est-à-dire, je suis retourné sur son profil, dans le mien, et j'ai requalifié comme plus proche. Pourquoi ? Parce que quelque chose se passe avec lui. Et puis les questions viennent, et en particulier sa femme, elle n'est pas très loin. Et ça s'est fait uniquement avec Facebook. Moi, je crois que l'Église, elle a aujourd'hui un potentiel de se faire connaître, d'aller dans le salon des gens comme jamais auparavant. Vous avez vu YouTube, deuxième moteur de recherche au monde. On a la possibilité même d'indexer les paroles qui sont dites dans les vidéos YouTube. Si votre prêche du dimanche matin serait filmée, si vous citez Malachi 3 ou Malachi 4, ensuite, vous allez dans le moteur de recherche Google, vous faites Malachi 4, et bien cette vidéo va remonter parce qu'on a des techniques pour indexer le contenu son, le transformer en texte. Donc imaginez, si aujourd'hui on décide de filmer nos cultes, deux caméras, une un peu plus haute, une à hauteur, prendre le son, un joli fond, avec un peu d'habillage, etc. Et je publie sur YouTube. Je publie. Et je relais ça sur mon site, je le fais connaître par les réseaux sociaux, c'est l'Église qui va entrer chez les voisins. Il y a peut-être en face de votre Église des gens qui voient votre enseigne depuis des années mais qui n'auront jamais le courage d'entrer à l'Église parce qu'ils pensent, ils ont des préjugés, ils pensent que vous êtes des illuminés, mais avec YouTube, YouTube va venir dans leur salon grâce à ça. Oui ?
Comment vous gérez au niveau de la sécurité, le contenu que vous mettez dessus, aussi sachant que tout est stocké, et puis, je travaille plus pour le site internet dans le domaine de mon église, et puis, ils sont notamment très protégés, c'est dangereux ce qu'on met, enfin, ils peuvent nous trouver, on sera persécutés, tout ça. Alors, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus étendu. Comment vous gérez ça? Je ne sais pas si vous avez des principes, des limites.
Au niveau du contenu que je publie, c'est la Bible, donc là, il n'y a pas vraiment de secret. Par rapport aux personnes qui publieraient dessus, je me pose aussi assez souvent la question des gens qui interagissent sur la page de la Bible, et puis justement Facebook peut être tracé, et puis on peut voir justement qui c'est qui interagit avec ça. Mais ça, j'ai dû dire, ce n'est pas ma responsabilité, moi je ne peux pas prendre la responsabilité des autres.
Pour la Bible, c'est facile, mais par exemple, une église qui décide d'aller sur Internet, suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'églises plus âgées qui fassent ça. Je ne sais pas s'il y a des limites, si vous avez des ressources, on peut voir, parce que certains sont quand même assez réfractaires. Je pense que dans certains domaines, ils ont raison. Mais mettre des versets, ça va.
Ouais.
Mais mettre des lieux, des rencontres, des... Enfin voilà, il y a des gens, ils n'ont pas de limites. Ou... Enfin, c'est juste qu'ils doivent gérer, je ne sais pas si vous avez des pistes.
Là, je pense qu'il faut vraiment être très au clair avec les intervenants qui apparaissent dans la vidéo. Par exemple, chez nous, à l'église de Bavresse, enfin, c'est filmé puis c'est mis sur le net. Donc, les gens peuvent suivre, peuvent s'abonner. Ça, je pense que c'est vraiment le respect de la vie privée. Puis, bah, quand on a des invités sensibles qui viennent de pays dangereux, par exemple, là, je pense qu'il faut vraiment être sage et puis ne pas les mettre en ligne. Mais je pense actuellement en Europe, moi, je profiterai de faire transmettre le message.
Bon, c'est un événement qui s'est passé au Maroc. Des gens du gouvernement, enfin des policiers, se sont fait amis avec des chrétiens, ils les connaissaient déjà. Ils ont dit on aimerait trouver une église, on est chrétien, on est connu par les satellites, etc. Et puis ils ont joué le jeu, vous voyez. Puis ils sont entrés en communication trop rapidement. Et puis ben, c'était en juin, il y a 2 ans exactement. Et c'est une quarantaine de personnes qui ont été raccompagnées à la frontière. Donc surtout, ils repéraient les étrangers qui donnait le message. Donc c'est vrai, il faut avoir beaucoup de sagesse. Et je vois mes collègues agir avec beaucoup de sagesse. Avant de rencontrer quelqu'un, il y a des filtres. Twitter, pour ça, ça marche vraiment bien. On arrive à aller assez loin avec la personne de manière virtuelle avant de provoquer une rencontre et surtout avant de lui donner une adresse d'une église ou d'un groupe de maison. Et là, ils sont très attentifs de ne pas donner tout de suite. Donc d'abord, il y a un travail de discipulat qui se fait, donc, après la conversion. On regarde ce qu'elle a dans les tripes, la personne, si vraiment elle vit des choses, si elle communique des choses. Ensuite, elle est rencontrée une première fois, et ensuite seulement elle est amenée devant les autres. Donc ils n'acceptent pas à l'église du jour au lendemain. Disons, chez nous, dans la mission là, c'est comme ça que c'est travaillé. Et après, bien sûr, il y a des personnes qui visitent, et qui passent d'une église à l'autre. Et si c'est quelqu'un qui vient de France et qui visite des églises en Égypte ou ailleurs, ben tu peux être tracé au moment où tu arrives en Égypte ou ailleurs et arriver dans des lieux qui sont qui ne devraient pas être découverts. Reste, voilà. Il y avait 3 questions. Je commence ici, puis après Guy.
D'accord. Ouais, moi j'avais 2 sujets par rapport à la persécution. Je me suis confronté à des gens qui nous parlent de ça, mais c'est vrai qu'il y a une évolution de la vie privée par rapport à l'époque. Par rapport à la génération qui est en train de devenir, ils n'ont plus tout à fait les mêmes notions de la vie privée. Et puis, mais par rapport à la persécution, je pense qu'on n'est pas encore persécuté. Alors profitons-en. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de ça. Le jour où on sera persécuté, ben, on fera en fonction. On fera comme dans les pays.
Tout est enregistré maintenant.
De toute façon, tout est enregistré. Tout. On n'a plus. Je veux dire, tous ceux qui ont le cumulus. Tout est enregistré. La seule persécution aujourd'hui qu'on a, c'est la publicité.
Je veux dire juste, je travaille avec des gens qui travaillent voilà, dans les pays que je vous ai montrés avant, mais je suis époustouflé par leur courage. Ils sont courageux, courageux, courageux. Seulement en Égypte, il y a 200 missionnaires qui travaillent sur le terrain. Ils sont à plein temps sur le terrain et ils sont courageux. Et ils vont au droit. Si on a une minute, je vous montrerai un film. Ils utilisent toutes sortes de possibilités pour atteindre les gens. Ils ont organisé un marathon en ville où les gens courent, mais au final, comme j'ai remis des prix, ils ont fait une petite évangélisation là. Enfin, ils ont pris le thème du sida qui n'est pas abordé en Égypte parce qu'il est sous le couvert de la religion et ils approchent les gens parce qu'il y a une immense épidémie de sida en Égypte et ils viennent au secours des gens, mais ils sont courageux, incroyablement courageux. Et moi, je pense qu'on doit s'inspirer de ce courage-là.
Ma question, c'est plutôt stratégique d'essayer de rester en rythme avec ce qui est en train de sortir. Parce qu'il y a 5-6 ans, certains de ces sites, ils n'existaient pas. Puis dans 5-6 ans, il y en aura d'autres. Mm-hmm. Est-ce que plutôt que de rester en retard de 5-6 ans sur les outils principaux de communication qui sont utilisés dans le monde, est-ce qu'il y aurait moyen de savoir, d'être un peu à jour, de voir qu'est-ce qui est le plus utilisé, est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, puis qu'on pourrait venir en tant qu'église à l'intérieur de ces nouvelles choses pour pouvoir être le plus pertinent et le plus efficace possible?
C'est une bonne question. C'est la question de la stratégie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'élection de Marcel Maurer. En fait, d'abord, on a la cible. D'abord, on a un objectif. Et après, on choisit les outils. Mais on ne choisit pas l'outil avant. Parce que beaucoup, même des églises, ont dit, mais on veut faire un site Internet. Mais pourquoi tu veux faire un site Internet? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais j'aimerais dire notre adresse, les horaires de culte, et puis éventuellement une carte pour nous trouver. Alors jusque-là, c'est déjà pas mal. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis, selon notre objectif, peut-être que les réseaux sociaux sont un des outils qui peut répondre à ça. Mais pas obligatoirement. Maintenant, Facebook, il y a 5 ans, c'était... On se disait, ouais, c'est aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un autre outil qui arrive comme une vague, qui s'appelle Pinterest. Vous allez... C'est comme, vous savez, comment on dit ça, des écrans d'affichage.
Tableau d'affichage.
Tableau d'affichage où vous mettez vous punaisez des annonces, des petites annonces et trucs, et vous pouvez faire la même chose. Et les autres voient le tableau d'affichage, en gros ça. Mais c'est un outil qui monte maintenant aux États-Unis, qui probablement va arriver chez nous dans une année. Voilà. Alors on se dit, bon, ben, si on l'anticipe, peut-être qu'est-ce qu'on pourra faire avec ça? Est-ce que c'est un outil qui peut entrer dans une stratégie? Mais d'abord l'objectif, ensuite les outils. Pas les outils en premier. Allez, monsieur.
Une question, Stéphane, concernant la longueur des articles, du texte que tu ajoutes, donc tu as parlé de la page de la Bible, donc c'était assez court.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire court? Et puis, dans l'autre, tu as mis l'info, quelle longueur de texte est-ce que tu...
Alors sur la page Facebook de la Bible, quand je publie un nouveau statut donc sur Facebook, c'est l'ordre de 2-3 lignes qui marche le mieux. Après, quand il y a de temps en temps des prières, par exemple, là, il y a 2-3 jours, j'ai publié une prière qui faisait 10 lignes à peu près par rapport à une demande de recherche d'emploi où on priait Dieu pour qu'on puisse trouver un emploi qui nous plaît, où on peut s'épanouir et tout ça. Et puis ça fait exploser les statistiques, par exemple. Donc, quand le contenu est assez émotionnel, je dirais, puis lié à un besoin, on peut aller plus long. Après, pour des versets bibliques, là, je reste relativement court, 4-5 lignes comme ça maximum. Au niveau du site de la Bible, là, c'est de l'ordre de la page A4 à peu près, au niveau de la longueur des textes que je publie, parce qu'après, ça devient pénible de défiler à l'écran, et puis les gens lisent de moins en moins. C'est un peu ça, les ordres de grandeur, je dirais. Et puis sur Twitter, ben c'est 160 caractères. Ça, c'est hyper court.
J'ai une question concernant le temps que tu consacres ensuite à ça. Tu parles de tous les gens qui viennent visiter, des remarques qu'ils font.
Les administrateurs.
Tu réponds à ces gens-là. Combien de temps tu consacres finalement à l'interaction avec les gens qui ont visité le site?
Alors au début, je le faisais seul. Et puis maintenant, on est une équipe. Donc on est une dizaine de personnes à peu près dans un groupe dans lequel on discute de stratégie, où je pose des questions par rapport à l'évolution de la page. Pour le maintien de journalier de la page, mon épouse surveille la page les jours pairs, moi je fais les jours impairs, donc comme ça on se répartit un peu le travail. Et puis là on fait de la surveillance, donc il y a régulièrement aussi des musulmans qui viennent publier du contenu qui vient montrer que le Coran est vrai et que la Bible est fausse, ce genre de choses. Donc là il faut supprimer ce genre de choses. La publication, c'est relativement vite. C'est dans ma lecture quotidienne qu'il y a un verset qui me flash comme ça, puis que je publie après sur la page. Et après, j'y vais plusieurs fois par jour quand même pour checker est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce qu'il n'y a pas des choses à supprimer. Donc, par jour, je dirais, pour le maintien de la page Facebook de la Bible, je pense facilement une demi-heure, 45 minutes, je pense, par jour de travail dessus. Après, sans compter les publications qu'on fait sur le site de la Bible et tout ce qu'on fait autour. Mon travail après, c'est de voir que s'il y a des questions importantes qui sont posées sur la page de la Bible, qu'un internaute réponde, par exemple, comment apprendre à connaître Jésus ou ce genre de questions, ça c'est important que ces personnes reçoivent des réponses. Après, il y a beaucoup de réactions, c'est des Amen, Alléluia, ce genre de choses, ben, là je laisse juste couler et puis on n'intervient pas.
En fait, le travail qu'évoque Stéphane s'appelle le travail de community management. C'est le travail de manager la communauté qui nous est confiée. On peut dire que c'est un travail pastoral en ligne, c'est ça?
Ouais.
Mais dans le monde aujourd'hui, ce nouveau métier, vraiment le métier aujourd'hui, Et il y a des formations qui se font, qui commencent maintenant. Les premiers formés ne sont pas arrivés. Mais si vous êtes capable d'être community manager, vous êtes absolument sûr de trouver du travail. Je vais encore rapidement attirer votre attention sur l'exemple de Paris-Bastille, qui est une église dont je me suis occupé de Facebook. Mais regardez ici à droite, vous voyez, votre publicité pourrait être ici. Vous voyez ce petit carré. Et ça, c'est l'exemple de la publicité que propose Facebook. Donc, la publicité, c'est comme ça. Église Paris-Bastille, bonjour. Notre grande joie serait de vous retrouver lors d'un de nos prochains services. Et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on dit tout à Facebook, on dit notamment où on habite, on peut utiliser un outil de ciblage à l'intérieur de l'outil publicitaire Facebook et montrer cette publicité qu'aux personnes qui habitent dans un rayon de 10 km autour de l'église, c'est-à-dire dans les quartiers du 11e arrondissement, et que vos voisins, quand ils se connectent sur Facebook, voient la publicité de l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent juste à côté, juste en face, juste à proximité. Donc quand vous avez un orateur, quand vous avez une évangélisation, quand vous avez quelque chose d'assez spécifique au niveau de votre église, vous pouvez utiliser un outil comme ça pour les ramener sur la page et leur donner ensuite une information. Et regardez ici ce gros bouton. Ici, dans ce cas précis, on a lié le canal YouTube qui a été créé pour l'église avec Facebook. Et puis, vous avez tous les prêches qui sont disponibles. Ici, les prêches de Franck Le Filâtre, que vous pouvez revoir jour après jour. Non seulement les gens de l'église sont tous amis de la page, regardez, ils ont fait un petit générique, ils ont travaillé un peu pour faire ça, et puis ensuite, voilà. Et puis, une fois qu'ils ont fait ce matériel, il y a une église de Corée...
Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous lirons les trois.
Voilà. Une église de Corée a trouvé les messages intéressants. Donc, leur matériel est utilisé pour leurs propres soins, mais il est également envoyé sur des disques durs en Corée. Ils traduisent les messages et ils sont passés sur une télévision satellite en Corée. Et ce matériel fait voilà, des petits.
Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à l'atelier. Le temps file. Dans 5 minutes, il y a le suivant qui va continuer. On va laisser au prochain narrateur la place. Et si vous avez encore d'autres questions, des remarques, si vous avez du contenu lié à la Bible, moi je suis toujours preneur, toujours intéressé. N'hésitez pas à nous approcher et puis à nous en parler. Merci beaucoup. Merci.